et à toutes. Voici une lorgnette qui illustre dès cet édito son sujet. En effet, l'émission que vous écoutez ne se déroule pas en studio, pour cause d'impossibilité d'accès à nos micros de mes invités. Venir à Studio Zef est une formalité à laquelle on ne songe pas, même lorsqu'on est valide, mais qui est strictement impossible en autonomie lorsque l'on est porteur de handicap. À l'occasion des 20 ans de la loi censée améliorer la vie d'environ 10 millions de personnes à travers la France, on fait le point ici à Blois sur ce qui va et sur ce qui malheureusement ne va pas. Bienvenue à tous et à toutes dans la lorgnette. Et bonjour à mes invités.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, comme je le disais donc en édito. Cette émission est enregistrée dans les locaux de l'association qui nous reçoit. L'association en question est donc l'APF France Handicap. On va revenir sur le sujet évidemment à l'occasion donc des 20 ans de la loi de 2005 qui prévoyait donc une amélioration importante des conditions d'accès à l'emploi, aux établissements recevant du public et tout un tas de mesures en faveur des porteurs et porteuses de handicap. Cette émission est donc enregistrée, alors c'est pas une mauvaise volonté hein, de la part de la ville, on le sait, mais nos locaux ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Nous voici donc à enregistrer ici au sein de l'association APF. On va faire un tour de présentation de mes trois invités donc, qui sont autour de la table. On va commencer à ma droite.
Alors, je m'appelle Elisabeth, j'ai 67 ans et je suis atteinte d'une sclérose en plaques, ce qu'on appelle aussi, pour moi, en ce qui me concerne, un handicap invisible. Parce que quand on me voit dans la rue, évidemment, on ne voit pas que je suis handicapée. Mais moi, je le sais et je le ressens tous les jours.
Bonjour, je m'appelle Nadia Zarif, j'ai eu à 4 ans un AVC. Et puis, ça change beaucoup de choses. La perte, comment dire, dans le temps, des jours, enfin d'être perdu dans le temps, de ne plus pouvoir travailler, inaptitude au travail, perte de sociabilité et également aussi plus le droit de conduire, voilà.
Et je vois, donc vous avez un petit appareil qui vous aide à marcher aussi, mais vous vous déplacez seul malgré tout.
Oui.
Très bien, on va y revenir évidemment sur tous ces sujets et tous les handicaps et les conséquences que peuvent avoir les accidents de la vie. Et ma dernière invitée.
Oui, bonjour, je suis Michel, j'ai 72 ans et comme Elisabeth, je suis aussi porteuse d'une sclérose en plaques, sauf que nous n'avons pas la même forme puisqu'il y a différentes formes dans cette maladie. Et moi, je suis maintenant en fauteuil depuis 2015 environ.
Donc 10 ans à peu près.
Oui.
Très bien. On va évidemment faire le point sur tout ce qui empêche et tout ce qui permet vos différents handicaps. Je voudrais, avant qu'on commence vraiment et qu'on rentre dans le vif du sujet de cette émission, qu'on fasse un point sémantique en me renseignant, en travaillant sur l'émission. J'ai vu beaucoup de termes qui étaient possibles d'utiliser, qui étaient utilisés dans beaucoup de situations. Vous, à titre personnel, est-ce que vous utilisez plutôt handicapé, en situation de handicap, porteur de handicap, est-ce que peu importe finalement comment...
En situation de handicap.
Ça vous va, vous ?
Parce que le mot handicapé a été longtemps dit et redit. On trouve que handicapé, ça ne représente pas du tout notre chose parce qu'on est en situation de handicap dans certaines activités, pour certaines choses, c'est pas, on n'est pas handicapé sur tout, quoi.
Ouais.
Donc, on trouvait que c'était un terme un peu inadéquat, péjoratif. Alors qu'en situation de handicap, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ça peut être n'importe quelle personne valide, peut être un jour en situation de handicap. Ne serait-ce qu'avec une jambe de cassée, par exemple, cette personne est en situation de handicap.
Mais du coup, à la différence de quelqu'un qui se casse temporairement une jambe, qui va être effectivement en situation de handicap, votre handicap à vous est permanent. Et à ce titre-là, effectivement, la notion entre handicapé et porteur de handicap peut jouer. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr. Mais bon, Maintenant, c'est vrai que dans le terme le plus courant, c'est situation de handicap.
Eh bien, on va utiliser ce terme-là pour parler donc pendant l'heure qui vient. Est-ce qu'on peut reparler de l'association qui nous accueille aujourd'hui, l'APF, son rôle pour vous, pour les personnes qui sont présentes dans ce lieu et des missions qu'elle occupe et qu'elle dispense.
Alors, pour nous, l'APF, ça nous apporte beaucoup parce que il nous aide dans beaucoup de domaines, aussi bien administratifs, dans les lois, au niveau des lois, de nos droits, et nous permettent aussi d'avoir beaucoup d'activités pour rompre l'isolement. Et ils nous accompagnent dans énormément de domaines, ce qui est bien pour nous.
Alors, est-ce qu'on peut développer un petit peu quelle aide vous apporte il et elle?
Alors, de l'APF. Moi, en ce qui me concerne, avec Elisabeth, comme on a toutes les deux la même pathologie, y a un groupe qui a été créé au sein de la délégation de Blois, que l'on appelle la CEP Academy, puisque ce sont que des personnes qui ont des scléroses en plaques. On est un groupe d'une dizaine environ. Et on se réunit tous les vendredis. On a une activité chaque vendredi. Donc, le premier vendredi, c'est activité jeu avec une ludothécaire. On fait des jeux pour faire travailler la mémoire. Le deuxième vendredi, on fait de la sophrologie avec quelqu'un que vous connaissez, je crois, Michael.
Oui. On lui passe le bonjour.
Le troisième vendredi, comme aujourd'hui, on a socio-esthétique. Et le quatrième vendredi, on a notre groupe SAP Academy où on se réunit pour échanger, voir comment chacun va. Mais en dehors de ça, on se soutient, s'il y en a qui ne va pas bien, les autres appellent. Vous voyez, on fait même des choses en dehors de l'association puisque ça a créé un groupe soudé. Et on se soutient les uns les autres.
Au même titre qu'une association qui permet le rassemblement d'un centre d'intérêt, quand on parle notamment d'associations sportives ou artistiques, là, dans une situation d'aide sociale, c'est aussi partager des compétences, des problèmes et des sujets communs pour se rassembler et en discuter et le vivre mieux. On peut aussi rappeler les différentes formes de handicap, puisqu'on a souvent, malheureusement, l'image d'un handicapé, d'une personne en situation de handicap en fauteuil, qui sont le handicap le plus visible dans l'espace public, mais le spectre des handicaps ne s'arrête pas à ça. Est-ce qu'on peut en reparler un petit peu avec l'une de vous?
Oui, tout à fait. Moi, je peux bien en parler parce que j'en fais partie. En fait, on a énormément de gens à l'association qui sont avec des handicaps invisibles. C'est-à-dire, comme moi, avec une sclérose en plaques qui est quand même très invalidante, même si je n'ai pas de problème à la marche, mais j'ai d'autres soucis avec les mains, etc. Il y a aussi des problèmes de gens qui sont, par exemple, sourds. Ça ne se voit pas comme ça non plus, ou malentendants. On a des problèmes de gens qui ont des difficultés aussi à réfléchir, et ça c'est aussi un handicap aussi important. On a vraiment des situations complètement différentes. On a beaucoup de gens dans l'association qui sont mal marchants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en fauteuil, qui arrivent à se déplacer, mais pas comme quelqu'un de vraiment
lentement,
complètement valide. Voilà, ça on a beaucoup de personnes dans cette situation-là. Et puis, on a tous les handicaps de la vie, quoi. Enfin, il y a plein de gens qui ont des handicaps invisibles, même au travail. C'est pour ça qu'on fait beaucoup aussi avec l'association, on fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles et dans les entreprises pour justement éveiller un peu les consciences et de se dire peut-être que notre collègue de bureau, finalement, il a peut-être un handicap et éveiller les consciences aussi des employeurs. Et puis tout le monde, quoi. C'est vraiment très important.
On va revenir sur la question notamment d'accessibilité et de travail par les personnes en situation de handicap. Est-ce que les handicaps visibles, on en parlait, est-ce que c'est effectivement, j'ai l'impression, l'arbre qui cache un peu la forêt de la grande, comme je le disais, hein, selon de la grande famille, entre guillemets, du handicap. Comme je le disais en introduction, on estime, alors selon les des définitions qui peuvent être faites à environ 10 millions de personnes qui pourraient être, qu'on peut déclarer en situation de handicap, et les personnes en fauteuil évidemment ne représentent pas ces 10 millions là de personnes. Je pense que c'était important de le rappeler. Quel est le plus gros, la plus grande difficulté que les personnes dans votre situation sont confrontées au quotidien? On parle souvent du regard des autres. Alors évidemment, quand on est au fauteuil, encore une fois, on en revient au handicap visible. C'est plus voyant. Malgré tout, quand on peut-être vous voit, après avoir passé un peu de temps avec vous, on va se rendre compte sans forcément le savoir que vous avez un petit souci. Est-ce que le regard des autres est toujours un problème, ou est-ce que la société, malgré tout, a évolué depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans ?
La société évolue, heureusement. Mais en individuel, on s'aperçoit que, vous voyez, par exemple, mon exemple à moi, j'ai du mal avec mes mains. Donc, par exemple, quand je fais mes courses, si je veux régler avec mon porte-monnaie, je sors mon porte-monnaie, des fois, j'ai du mal avec la fermeture du porte-monnaie, etc. Les gens qui sont derrière moi doivent se dire, elle commence à nous faire suer, elle n'arrive pas. Voilà, ça ne se voit pas sur moi que j'ai un souci. Et on est toujours obligé de se justifier. Ça, c'est souvent que je me retourne et je dis, excusez-moi, j'ai des soucis avec mes mains. Mais c'est vraiment très... Ça, c'est encore plus handicapant et encore plus désolant, quoi, d'être obligé de se justifier parce qu'on est dans une société qui va vite et tout le monde doit aller vite pour tout. Et on n'accepte pas que des gens prennent plus leur temps parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, quoi. Ça, c'est compliqué. Je pense que Nadia, tu le ressens aussi, ça.
Oui, oui, oui. C'est vrai, je le ressens souvent. En grande surface, au passage à la caisse, malgré que ce soit une caisse bien indiquée, handicapée, il ne nous laisse pas passer. Enfin bon, si l'hôtesse de caisse fait son travail, elle demande de laisser passer, mais bon, c'est toujours
compliqué.
Oui, on vit dans un monde très qui court.
Ouais. Et l'obligation donc de justifier, vous en parliez, elle appuie le fait que vous êtes en situation de handicap et donc a tendance à dévaloriser déjà une situation qui n'est pas valorisante au quotidien, la société étant parfois empêcheuse de bien-être pour les personnes porteuses de handicap. C'est ça que vous nous dites.
Oui, tout à fait. Tout à fait. On a un exemple très drôle a posteriori avec Michel. Oui. On est parti à Marseille pour voir un match de foot avec l'association. On était dans un petit minibus et on s'est garé sur une aire d'autoroute. On voulait se garer sur une place réservée et la place était prise par quelqu'un. Donc le chauffeur, il s'est dit, c'est pas grave, on va se mettre à côté de la voiture. Et les gens sont arrivés. Alors nous, on était tous descendus. Évidemment, on avait des fauteuils. Donc, c'est quand même plus long que de descendre tout seul de sa voiture. Donc, on avait descendu les fauteuils et tout. Et évidemment, les gens voulaient repartir. Et on s'est fait vraiment enguirlander, mais vraiment très, très fort. En nous disant, ils nous font vraiment suer, tous ces handicapés. Voilà. Alors qu'ils étaient garés sur la place. Donc ça, c'est des... C'est souvent qu'on est confronté à des choses comme ça. C'est pas toute la société, heureusement. Mais il y a encore des gens qui tolèrent mal, qui sont encore très agressifs vis-à-vis des gens en situation de handicap.
Alors moi, par contre, du fait que je suis en fauteuil et que mon handicap est visible, je rencontre moins de problèmes que mes collègues. Parce que les gens, en général, sont bienveillants. Bon, après, il y a toujours des personnes qui... Il y a certaines incivilités auxquelles on ne peut pas échapper. Mais dans l'ensemble, je ne me plains pas. Même si je vais faire mes courses au supermarché, que j'ai du mal à attraper dans un rayon, souvent, il y a des personnes qui se proposent gentiment de vous aider. Donc, pour moi, c'est compliqué d'être en fauteuil, mais par rapport à la vision des autres, c'est plus simple, je dirais.
Et est-ce que le regard qu'on porte sur une personne en fauteuil roulant, malgré qu'il y ait de la bienveillance, ce qu'on espère et dont on ne doute pas, il peut y avoir aussi parfois de la condescendance, de la pitié peut-être même. Vous êtes confronté à ce genre de choses malgré tout
ou pas spécialement? De moins en moins, je trouve. Oui, je trouve de moins en moins. Alors après...
Peut-être que d'autres personnes...
Oui, votre cas individuel n'est pas forcément
représentatif. Voilà, je parle de mon cas à moi. Après, d'autres personnes... Après, c'est pareil, je dis, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on doit faire la tête, quand on sourit...
Oui, c'est vrai, ça y fait beaucoup.
Je pense que ça y fait beaucoup aussi. Bon, c'est mon cas. Moi, je dis toujours, je suis pas handicapée de la joie de vivre. Hein. Je fais beaucoup de choses... Bien qu'étant en fauteuil, il m'arrive même de faire des choses que j'aurais peut-être pas fait avant, voyez.
Sur le regard des autres personnes, on en a parlé. Le regard aussi des institutions. Alors, vous êtes accompagné, on le rappelle, par des associations et notamment celle-ci. Comment voyez-vous le regard que vous portent les institutions plutôt, les pouvoirs publics est-ce que vous avez un sentiment d'être écouté, d'être considéré par les pouvoirs publics, les institutions, quand vous êtes dans l'espace public?
Moi, personnellement, je n'ai pas eu de soucis avec les institutions. Au niveau des démarches administratives ou autres, j'ai toujours réussi. Ils sont assez compréhensifs. J'ai réussi à faire beaucoup de choses par téléphone ou même des personnes qui se sont déplacées parce que, évidemment, je ne peux pas me déplacer comme je veux et que tout n'est pas accessible, puisque j'en ai fait l'expérience une fois où je devais me rendre au tribunal d'instance à Blois, et quand vous arrivez devant le tribunal, il y a 5 marches pour monter. Et il n'était pas indiqué qu'il y avait une porte par derrière pour rentrer. Bon, après, j'étais accompagnée par une bénévole de l'association qui a demandé aux vigiles « Ah, mais il faut passer derrière, il y aura un ascenseur ». Mais bon, dans l'ensemble, personnellement, je vous dis bien personnellement, mais je pense aussi qu'il y a la façon de le demander. Hein. Si on demande de l'aide au niveau administratif ou autre, si on le demande avec agressivité, forcément, c'est pas toujours bien reçu.
Est-ce que, je me tourne vers vos deux camarades, vous partagez à peu près le même sentiment
La société
sur les
a quand même bien évolué.
La société en général.
Je crois qu'on prend plus en considération quand même les gens en situation de handicap que encore une vingtaine ou une trentaine d'années.
Parce que maintenant, on en parle, quoi.
Parce que les gens, on en parle. Je pense que là, on est dans une période où les Jeux paralympiques ont fait pour beaucoup. C'est vrai que ça, je veux pas dire que ça a redoré le blason des handicapés, mais presque. On s'est dit, finalement, il y a des gens, malheureusement, le handicap. Parce que c'est sûr que, peut-être encore une cinquantaine d'années, quand on parlait de handicap, c'était plus des gens qui étaient nés avec un handicap qu'autre chose. Actuellement, malheureusement, avec la vie que nous avons, il y a énormément de gens qui font des accidents vasculaires, énormément d'accidents.
Oui, accident de la route,
accident de la vie, qui font que les gens sont obligés de porter un regard différent en se disant finalement, ce n'est pas simplement du handicap dû à la naissance ou de la petite enfance. Maintenant, malheureusement, n'importe qui peut, du jour au lendemain, se retrouver en situation de handicap. Et je pense que ça change beaucoup le regard des gens, en fait. Et c'est ce qui nous est arrivé à nous.
C'est notre histoire, toutes
les trois, et puis du jour au lendemain, on a basculé de l'autre côté. Donc, tout le monde doit avoir ça en tête, quoi. Que finalement, le handicap, ça peut toucher vraiment tout le monde.
Eh bien, vous parliez des Jeux paralympiques, en l'occurrence, on va faire une pause musicale avec un artiste que la planète entière a découvert lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Il est lui aussi évidemment porteur de handicap. Lucky Love, tout de suite sur Studio Zef, et on se retrouve tout de suite après.
Thank you.
my head for so long after. They told me these words I can't remember. It keeps coming on and on. They keep beating on and on my face. See, they keep telling I'm a liar. Babe, it's not my fault I build these layers. I can't meet myself. What about my own ability? What the hell is wrong with my body? Am I not enough? Who gives you the fight to animals? Who gives you the fight to animals? What's wrong with you? Baby, baby, do I cry as you do? Do I kiss as you do? Do I love as you do? Sorry, babe, what's the difference? I can move as you do. And if you let me do, I'll make this show for you. Watch me, baby, baby, do I cry as you do? Do I kiss as you do? Do I love as you do? Sorry, babe, what's the difference? I can move as you do. And if you let me do, I'll make this show for you. My flesh to gel my soul. I just feel like I can fall. My mouth serves no job and no. And my hair is way too long. And what about my voice? What about my voice? Do you think I sound? Do I cry as you do? Do I kiss as you do? Do I love as you do? Sorry, babe, what's the difference? I can move as you do. And if you let me do, I'll make this show for you. Watch me, baby, baby. Do I cry as you do? Do I kiss as you do? Do I love as you do? Sorry, babe, what's the difference? I can move as you do. And if you let me do, I'll make this show for you. What about my own ability? What the hell is wrong with my body? Am I not enough? Or even too much? It will be short-sighted trial. Is it coming to your mind that I do care? To be a man.
Lucky Love, My Ability, reprise et adaptée pour la cérémonie donc, des Jeux Paralympiques de l'été dernier par cet artiste porteur de handicap. Il n'a qu'un bras, il est né avec un bras en moins et il poursuit actuellement donc, une carrière artistique assez spectaculaire, notamment depuis l'été dernier. Nous sommes de retour dans la lorgnette avec Elisabeth, Nadia et Michel, ici au siège de Blois de l'association APF France Handicap. On va s'intéresser, c'est le sujet de cette lorgnette s'est évidemment imposé avec cet anniversaire de la loi de 2005, notamment largement évoqué dans les grands médias nationaux, mais aussi on a bien vu passer votre manifestation du début du mois de février où certaines d'entre vous se sont déplacés dans l'espace public. On en parlait avant la pause musicale, ici ici à Blois, donc je voudrais qu'on fasse un petit point à Blois sur les avancées, les points positifs ou négatifs de votre déplacement dans l'espace public blésois. Donc vous avez fait une campagne de sensibilisation où notamment Michel, vous êtes en photo, donc c'est pour ça que je m'adresse à vous, mais évidemment vous aurez toutes les trois la parole, où vous avez fait une tentative de trajet en bus urbain.
Oui, c'est pour la première fois parce que je n'utilise jamais les bus urbains, j'utilise du réseau Azalis Indigo qui nous emmène dans les petits véhicules. Et ben en fait, pour moi, l'expérience n'a pas été à 100% concluante. Le retour s'est très bien passé, mais l'aller, pas terrible du tout.
Alors, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas lu l'article de La Nouvelle République, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait exactement ?
Alors, en fait, j'habite en face du Jeu de Paume, et il y a un arrêt de bus qui est adapté pour la montée en fauteuil.
Super.
Donc, il y avait une amie qui est aussi dans notre groupe qui m'a rejoint.
Est-ce que le bus ou la compagnie ou Azalis était prévenu de votre manifestation?
Non.
Vous l'avez
fait
vraiment en situation réelle?
Ah bah carrément, puisque
c'était l'intérêt, j'imagine.
C'est l'intérêt pour que toute personne en situation de handicap qui n'est pas adhérent de l'APF puisse utiliser les transports en commun. Donc le bus s'est bien arrêté à l'arrêt et on avait décidé d'aller jusqu'à la gare SNCF.
Okay.
Donc j'ai pris le bus et quand on est en fauteuil, il y a une double porte qui s'ouvre au milieu du bus.
En centrale,
en face, il y a un emplacement pour le fauteuil. Mm-hmm. Donc, je m'y suis mise, j'ai mis les freins et j'étais face à la route. Et la conductrice, c'était une conductrice, conduisait un petit peu vite et sèchement. Et à un moment, elle a pris un virage et je me suis retrouvée projetée contre la porte qui elle-même s'est entrouverte. Malgré les freins, freins, mais sur mon fauteuil. Mais ce que je déplore, c'est que la conductrice ne s'est même pas excusée, n'a même pas ralenti, même pas demandé si tout allait bien. Quoi. Et bon, on a continué la route jusqu'à l'arrivée à la gare SNCF, où là, elle a mis au moins 5 minutes pour arriver à positionner le bus à l'arrêt pour pouvoir sortir la rampe.
Sur la plateforme adaptée.
Voilà. Alors, elle avançait, elle reculait. Alors, ça faisait des à-coups, même pour les autres voyageurs. Il y avait des personnes âgées qui avaient un petit peu de problèmes aussi pour marcher. Et elle a mis 5 minutes pour positionner le bus et sortir la rampe pour qu'on puisse descendre. Mais sans aucune excuse, parce qu'après, bon, je peux concevoir, tout le monde peut faire des erreurs, mais on s'excuse, quoi. Peut-être que cette conductrice n'avait pas été formée pour ce genre de bus, je ne sais pas. Mais franchement, le manque d'empathie, même pas une excuse, quoi. Là, ça a été terrible. Heureusement, au retour, on a eu on a pris un autre bus avec un conducteur, où là, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, le journaliste de La Nouvelle République est monté avec nous pour faire le chemin du retour, pour bien se rendre compte, et qui a fait son article.
On le voit et ça me permet de glisser vers mon autre question. On reviendra sur d'éventuels points difficiles d'accès encore une fois dans l'espace public et ici à Blois. On pointe généralement et je pense à raison un manque de culture et d'éducation autour du handicap. Est-ce que telle l'éducation civique et citoyenne ou l'éducation à la sexualité, à la vie affective dont on parle beaucoup en ce moment dans les écoles, est-ce qu'on aurait besoin de développer avec des associations, des personnes porteuses de handicap, des ateliers, notamment pour les plus jeunes, pour valoriser les personnes, leur insertion, leur intégration dans la vie quotidienne, pour changer, encore une fois, de regard et acculturer les populations.
C'est ce qu'on fait à l'association.
Bien évidemment.
C'est tout à fait ce qu'on fait. Ouais. On essaie justement d'ouvrir un petit peu les yeux d'un peu de tout le monde.
Enfants et adultes.
Et enfants, on fait beaucoup justement de sensibilisation dans les écoles, l'école maternelle, l'école primaire, collège, lycée et dans le monde des entreprises. Justement, on essaie de sensibiliser au mieux pour que tout le monde puisse vivre ensemble. C'est très compliqué d'arriver à faire des choses que pour les personnes en situation de handicap, alors qu'on peut très bien adapter les choses qui existent, notamment dans le sport, en ayant aussi des adhérents qui sont en situation de handicap Et c'est, on se bat pour. On se bat pas, justement, on se bat contre l'exclusion. On se bat pour l'inclusion de tout le monde, quoi.
Pour le vivre ensemble.
Y compris à l'école, dans les choses sportives, culturelles. On peut très bien, mettons, une troupe de théâtre peut très bien accueillir une ou deux personnes en situation de handicap. Le monde change. On le voit avec le film qui a eu
un petit truc en plus.
Tout le monde d'un seul coup a découvert le handicap, la trisomie, etc. Tout le monde est formidable et voilà, mais on espère justement que c'est des choses comme ça, très médiatisées, qui peuvent faire changer les choses aussi.
Après, je pense aussi que pour certaines personnes, le handicap, ça fait peur. Ils ne savent pas comment s'y prendre, comment réagir. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est bien de faire des sensibilisations comme on en fait au sein de l'APF France Handicap. Et malheureusement, il n'y a pas assez de demandes. On propose, mais
on aurait besoin.
Bon, ça commence un petit peu à prendre de l'ampleur, mais c'est pas encore suffisant, parce que je pense que si les personnes étaient sensibilisées, le vivre ensemble, ce serait beaucoup mieux.
Sur le justement votre présence dans des lieux de culture et de connaissances pour sensibiliser, est-ce qu'ils sont justement accessibles facilement aux personnes porteuses de handicap, des rampes, des entrées arrière, des ascenseurs, etc. Est-ce que pour se déplacer sur des lieux d'atelier, des fois c'est compliqué?
Il y en a, oui, il y en a, mais peut-être pas encore suffisamment. Après, la ville de Blois, c'est une ville royale qui est construite depuis des millénaires.
J'allais y venir, c'est une ville touristique et patrimoniale, j'imagine, avec beaucoup de difficultés pour mettre en place certains accès.
Ouais. Le château, par exemple, n'est pas accessible, enfin en partie.
Ils en ont mis, on ne peut faire que le rez-de-chaussée. Ouais.
Mais ça, c'est... on ne va pas d'un seul coup mettre un ascenseur...
Demander un ascenseur dans le château royal de Blois, compliqué. Ça paraît compliqué.
C'est très compliqué. Bon, là, c'est vrai que la ville de Blois fait énormément de choses.
Oui.
On travaille beaucoup avec les services de la ville. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont améliorées.
Vous les sentez à l'écoute?
Oui,
et
tout
conservé.
À fait.
Oui, tout à fait.
Il y a même un groupe dans l'association qui s'appelle J'accède à Blois, qui s'occupe justement de toute l'accessibilité sur la ville et sur l'agglo. Et c'est vrai qu'on nous demande notre avis au niveau de la ville quand il y a des nouvelles choses qui s'ouvrent, etc. Et régulièrement, on fait le tour. Par exemple, il va y avoir les terrasses qui vont réouvrir là au beau jour. On fait le tour des terrasses, on fait le tour des commerces, on fait le tour. Et on est toujours accompagnés. C'est vrai qu'ils sont très à l'écoute là-dessus. Il n'y a pas de souci. On est vraiment à l'écoute et il y a beaucoup d'efforts de fait.
Oui, après, dans toutes les nouvelles constructions, forcément, c'est aux normes. Ils sont obligés. Mais malheureusement, à Blois, il y a quand même beaucoup d'endroits où c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis en plus, il y a l'histoire des architectes des bâtiments de France.
De contraintes architecturales, patrimoniales,
comme on dit. Et qui refusent certaines adaptations parce que c'est contraire
à l'histoire des bâtiments de France.
Voilà, à l'histoire.
Chaque semaine dans La Lorgnette, on vous recommande un podcast, une émission, un documentaire. Cette semaine, je vous propose un petit résumé d'un article sorti cette semaine dans Mediapart, un article de Lucie Delaporte, Logement et handicap, une assignation à résidence invisible. Être porteur de handicap expose à des discriminations en cascade dans l'accès au logement. Faute de logement adapté, les personnes en situation de handicap sont surreprésentées parmi les mal logés, selon le rapport annuel de la Fondation pour le logement des défavorisés. Les discriminations en cascade que subissent les personnes porteuses de handicap face au logement sont réelles. Selon le 30e rapport annuel de la Fondation pour le logement des défavorisés, l'ex-fondation Abbé Pierre qui a récemment changé de nom. Il y a 20 ans, donc, le législateur a adopté un texte fondé sur l'inclusivité et la défense de l'accessibilité dans les transports, les lieux publics, l'école et dans le logement. Accéder à un logement de manière autonome est un élément de la désinstitutionnalisation, rappelle Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation pour le logement des défavorisés, en référence à l'un des principes posés par l'ONU sur le handicap visant à l'inclusion partout et pour tous et toutes. On en est pourtant loin, dit l'article. Dans le parc privé, les personnes ayant un handicap ont moins de chances d'accéder à un logement, que ce soit en propriété, 9% des propriétaires accédant contre 23% pour la population générale, ou en location, 19% contre 24%. Une situation qui résulte de leurs difficultés à s'insérer sur le marché du travail, de leurs faibles revenus en moyenne, 26% vivent sous le seuil de pauvreté contre 14% chez les valides, et du surcoût engendré par le handicap, nécessité d'adapter les logements, soins, etc. On cite dans ce 30e rapport annuel une personne sourde qui s'est vue refuser un logement par un propriétaire au motif qu'elle ferait trop de bruit dans son logement parce qu'elle ne se rendrait pas compte. En 2005, la loi posait l'obligation de produire 100% de logements neufs accessibles. Après un intense lobbying du secteur du BTP et de la promotion immobilière, cet objectif sera drastiquement revu à la baisse dans la loi Elan de 2018 au motif de la simplification de l'acte de construire. Depuis, seulement 20% des logements adaptés sont produits dans le neuf. Le parc social où le handicap est un critère prioritaire pour accéder au logement présente cependant d'assez piètres résultats en matière d'accueil. Seuls 18% des logements y sont considérés comme accessibles, 6% accessibles et adaptés au handicap. Avec un si petit nombre de logements adéquats à proposer, les délais d'attente sont encore plus longs pour ce public qui a en moyenne 14% de chances en moins d'obtenir un logement social que les autres ménages. 23% des personnes en situation de handicap attendent un logement social depuis plus de 5 ans, contre 12% pour les autres demandeurs et demandeuses, une aberration pour un public pourtant prioritaire. Dans leur rapport sur les conditions résidentielles des personnes handicapées en France, récemment remis à l'Institut de recherche en santé publique, les chercheurs Pierre-Yves Boudot et Thomas Chevalier pointent un phénomène d'assignation à résidence et de double peine, bien souvent invisible. Dans le chapitre privé de sortie, le rapport pointe évidemment les dysfonctionnements des ascenseurs comme obstacle majeur et la lourdeur, par exemple, d'une porte coupe-feu où les quelques marches à l'entrée d'un hall peuvent rendre épique l'entrée et la sortie de son domicile au point de certains d'y renoncer. Certains des enquêtés n'étaient pas du tout sorti de la semaine quand je les ai rencontrés, raconte Pierre-Yves Boudot, qui décrit le très fort sentiment d'isolement de ces personnes qui, de fait, sont absentes de l'espace public et se font d'autant plus oublier. Je vais vous demander une petite réaction sur les quelques morceaux de cet article de Mediapart de Lucie Delaporte. Est-ce que c'est des situations dans lesquelles vous vous retrouvez peu ou prou?
Ce qu'ils disent, franchement, c'est la réalité.
Ouais.
Personnellement, non, je m'y retrouve pas parce que j'ai eu la chance. Je suis locataire d'un logement, on va dire, semi-adapté. Parce que j'ai quand même encore un minimum d'autonomie, ouais. J'arrive à me mettre debout. Y a un ascenseur qui fonctionne bien pour l'instant dans ma résidence. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans le cas où ils n'arrivent pas à trouver un logement adapté.
Est-ce que c'est des personnes, justement, qui peuvent passer à l'APF, qui font remonter ce genre de difficultés?
Oui, tout à fait. Ça peut. On a un cas en ce moment, là.
Oui. C'est tout à fait le problème. Le problème des logements adaptés, c'est qu'il y en a très peu, même dans les nouvelles constructions. Il y a un ou deux appartements qui sont adaptés quand il y a 20 logements, quoi, à peu près. Donc c'est sûr que c'est difficile d'en obtenir un. Il faut vraiment des critères parce que, bon, comme on a vu, il y a tous les handicaps. Il y a les gens effectivement en fauteuil, mais il y a aussi les gens qui ont des pertes d'autonomie diverses et qui auraient besoin aussi d'avoir des logements adaptés. L'histoire des portes lourdes, alors ça, c'est un problème récurrent, quoi. Ça, c'est pour moi qui ai des difficultés avec mes mains. Je suis souvent à me demander si je vais pouvoir ouvrir
la
porte,
pousser,
quoi.
Ouais.
Pouvoir la pousser.
Mais même pour les personnes âgées.
Les personnes âgées et quelqu'un en fauteuil, déjà, il faut attraper la porte. Et en plus, pouvoir la pousser, c'est compliqué. Tu sais ce qu'on raconte, pousser une porte, c'est vraiment compliqué.
Le sens de la porte aussi.
Voilà, aussi.
Ah oui.
Et le sens. Oui. Ça, oui. C'est...
Quand il faut la tirer, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, j'imagine.
En fauteuil, oui. C'est pas possible.
Ouais. Bah oui.
Mais alors, le problème, c'est que dans les établissements recevant du public, souvent, les portes des toilettes, c'est avec des chromes, là. Ils ont la possibilité d'être réglés, parce que je fais partie d'une commission d'accessibilité au niveau de la direction départementale des territoires, à Blois. Et les personnes m'ont dit, mais vous savez, normalement, ces chromes, ils doivent être réglés à une force maximum de 5 kilos. Pour que vous puissiez facilement. Seulement, la plupart des établissements recevant du public, les chromes ne sont pas réglés à 5 kg de force. Ils sont réglés plus fort pour justement éviter que les personnes laissent les portes ouvertes. Mais automatiquement, elles se referment, hein, même si le chrome est plus souple. Et la plupart des établissements ne les règlent pas à 5 kg.
Donc là, on est encore face à un problème de connaissance des lois et de... Alors, c'est pas de la mauvaise volonté.
Ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Mais normalement, les établissements recevant du public, ils sont censés
être au courant.
Et surtout, les mettre en pratique, les fournisseurs qui installent ces fermetures dans leur établissement, je pense qu'ils le savent aussi. Hein. Enfin, ça me paraît logique. Mais le plus grave, c'est l'accessibilité aux soins. Il y a des établissements de soins qui ne sont pas accessibles.
Des établissements et après aussi des spécialistes ou même, par exemple, des dentistes. Il faut que les dentistes aient des fauteuils adaptés pour recevoir des personnes en situation de handicap.
On manque déjà de dentistes sur le Loir-et-Cher. Voilà. J'imagine que des dentistes avec des équipements
au point de vue pour
les
femmes, les gynécologues, c'est pareil. Il faut quand même des choses adaptées. Et ça, à part en milieu hospitalier et encore, pas toujours, les gens ne peuvent pas aller chez qui ils veulent. Enfin, c'est aussi une discrimination à ce niveau-là, quoi. Ils ont pas, les gens en situation de handicap ne peuvent pas choisir comme à tout à chacun son médecin, son dentiste. Il faut faire en fonction de l'accessibilité. Et ça, c'est quand même pas normal. Quoi. Mmh,
bien sûr.
Et il y en a qui ne soignent pas à cause de ça, qui laissent tomber. En fait, c'est grave. En plus du handicap, on a besoin de...
Renonciation aux soins, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup.
Je voudrais qu'on glisse doucement vers la fin de l'émission. Le temps file, c'est passionnant. Je voudrais qu'on aborde un sujet très important de la vie en société, qui est le travail. Quelle est la part ou quels sont les retours principaux que les personnes porteuses de handicap font lorsqu'elles vous parlent à vous, ou au sein de l'APF France Handicap? Quels sont les principales reproches que l'on peut faire au monde du travail vis-à-vis des personnes handicapées?
La plupart du temps, les personnes en situation de handicap, à part vraiment quand c'est un handicap très visible, c'est-à-dire en fauteuil où elles peuvent pas le cacher ou autre, les personnes temporisent et ne disent pas forcément qu'elles sont en situation de handicap.
Elles ont peur que ce soit un frein à l'embauche.
Surtout, c'est notre cas, on le voit nous dans la SEP, c'est une maladie qu'on connaît bien, la sclérose en plaques. Souvent c'est insidieux, ça commence par des troubles qui sont pas tout le temps, qui sont de temps en temps, notamment beaucoup de fatigue. Et là, les personnes le cachent. Enfin, le disent pas l'employeur, parce qu'elles ont peur de
discrimination.
Discrimination.
On n'a pas dit le mot encore, c'est très important de le dire, la discrimination.
Donc je pense que tant que le handicap n'est pas visible, il y a énormément de gens qui cachent. Après, quand ça devient plus gênant, plus visible, il y a beaucoup de gens qui ont peur de le dire parce que la situation ne peut pas toujours s'adapter, le travail ne peut pas être adapté. Il y a certains métiers qui sont plus faciles que d'autres. Quelqu'un qui est dans un bureau, par exemple, assis, tant qu'il a pas de problème avec ses mains, il peut toujours faire son travail comme un comptable, comme une secrétaire, comme ça. Par contre, quelqu'un qui est, par exemple, moi je parle d'un milieu que je connais bien, le milieu médical, moi j'étais infirmière, une infirmière qui a une sclérose en plaques, comme moi, avec des problèmes aux mains, c'est difficile de piquer, quoi. Donc là, on peut pas cacher les choses. Et c'est dans ces boulots-là que les gens hésitent à dire qu'ils sont malades. Parce que il n'y a pas de reclassement possible, c'est difficile.
Nadia, vous disiez que vous ne pouviez plus travailler.
Oui, parce que j'ai travaillé presque 20
ans
dans un foyer de personnes handicapées déficientes.
Ok.
Donc, ce n'était pas possible. J'avais deux étages,
et
puis là, au niveau de la sécurité, oui.
Ouais. Donc, il y avait du déplacement, de la manipulation
de
personnes.
Ouais. Ouais.
Okay. Et donc, vous êtes maintenant définitivement arrêté. Vous ne pouvez plus reprendre l'activité.
Oui, puis là, récemment, à la retraite récemment. Mmh. Voilà.
Est-ce que, Elisabeth et Michel, vous avez été en situation de travail avec votre situation, dans votre situation
c'était
actuelle?
C'était juste au début de ma maladie, j'ai arrêté mon travail pour des raisons personnelles.
Ouais.
Mon mari ne voulait plus que je travaille, donc j'ai arrêté de travailler et j'ai eu ma maladie qui commençait.
Dans la foule.
Donc après,
vous n'avez pas été handicapé professionnellement par votre situation?
Non, non.
Très bien. Michel?
Eh bien, moi, j'ai pu travailler jusqu'à l'âge de la retraite parce que j'ai été à la retraite en 2013, donc je marchais encore plus ou moins bien, mais j'y arrivais. Donc, j'ai pas rencontré ce genre de situation.
Très bien.
J'ai pu travailler jusqu'au bout.
Est-ce que l'on va conclure cette émission? Est-ce qu'il y aurait des messages, des choses qu'on n'aurait pas dites, qui vous semblent pertinentes et importantes à transmettre pour les personnes qui nous écoutent? Qu'elles soient valides.
Surtout,
ou en situation de handicap.
Vivons tous ensemble. Surtout ça.
C'est ça.
Oui, voilà.
Et le handicap n'empêche pas de faire pratiquement tout ce qu'on veut, en fait.
On a même fait des vols en montgolfière.
Oui, c'est vrai. Oui.
Je vois des photos affichées là-bas, effectivement.
Ben oui.
Et récemment, on va aller à la neige.
Oui,
au ski.
On va au ski. Oui. On fait un séjour ski là, donc oui. Ils vont faire du ski fauteuil, donc ça va être génial. Donc c'est vrai que on peut faire tout avec de la bonne volonté, avec un environnement adapté. On peut tout faire.
Aussi avec des personnes qui nous entourent, qui sont bienveillants et voilà.
Et comme dit Michel, je suis handicapée, mais pas handicapée de la joie de vivre. Ça, c'est le slogan de Michel.
Ah oui, non, mais moi, je veux absolument garder une vie sociale. Je fais beaucoup de choses. Je vais voir tous les matchs de basket. J'ai mon abonnement. Je suis supportrice. Je fais partie du club de supporters. Je fais les déplacements. Mais parce que ce sont des gens bienveillants puis qui n'ont pas peur du handicap.
On aura bien compris que le regard de l'autre est très important pour vivre plus ou moins bien.
Ouais. Le handicap
que chacun
et puis il ne faut pas avoir
chacun,
peur hein, du
porte.
Handicap. C'est vrai qu'il y en a, après, ils ne savent pas comment s'y prendre, mais bon. Et puis, il ne faut pas en faire de trop non plus. Quand on est en situation de handicap, ça m'énerve. Si d'office, on vient me dire, allez hop, je te pousse. Je dis non. Si on a besoin,
je
demande.
Peux le faire toute seule.
Mais sinon, il ne faut pas sans cesse être aidé par quelqu'un, parce que sinon, on ne fait plus rien, quoi.
Eh bien, on va se quitter sur ces notes positives. Merci donc Elisabeth, Nadia et Michel de l'association APF France Handicap de nous avoir livré vos témoignages et d'avoir évoqué donc votre place dans la société et dans l'espace public. On se quitte comme toutes les semaines dans la lorgnette avec le journal de bord d'un élu local, Nicolas Orgelet et Gaël Bernard. À 18h, c'est la Rock Set List avec l'ami Christophe. On se quitte. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est évidemment à retrouver en podcast sur le site de Studio ZEF. Merci
à toi. Journal de bord d'un élu local, épisode 135. Il s'appelle Dieu solidaire, les jardins de cocagne de bois. Épisode 2, avec notre invité Bruno Chauvet. C'est parti.
Salut Nicolas.
Salut Gaël.
Nicolas, on est toujours à l'enregistrement du podcast
sur Biosolidaire.
Biosolidaire, on est dans ta cuisine et avec nous, on a Bruno Chauvet. Salut Bruno.
Bonjour Gaël, bonjour Nicolas.
Salut, t'es horticulteur et pépiniériste et t'es là aujourd'hui pour nous parler de Biosolidaire, dont t'es coprésident, et Biosolidaire qui fait partie de Jardin de Cocagne.
C'est ça.
Ouais, parle-moi d'aujourd'hui parce que c'est vachement cool toute cette chronologie, mais j'ai envie de savoir
qu'est-ce que ça devient.
Aujourd'hui, on a redimensionné l'équipe. On fabrique 500 paniers par semaine pour des adhérents, des gens qui sont abonnés à l'année au panier. Donc, ils ont entre 3 et 4 kilos de légumes chaque semaine différents dans leur panier. Il y a des points de collecte partout dans le département. Mmh. Donc, le panier à partir du 1er janvier est à 13,50 €.
Il y a une légère augmentation des prix pour. Oui. En fait, avant, les paniers étaient vendus un peu en dessous du prix du marché parce qu'on pouvait se le permettre.
Oui.
Et maintenant, on s'est plutôt mis au prix du marché.
Oui. Et puis, il y a eu toutes les augmentations après Covid. On s'est pris plein fouet le plastique, les carburants, enfin tout.
Voilà, donc ça a permis de combler une partie de la.
Oui, ça va permettre parce que c'est pas encore effectif.
Et après, on a des nouveaux projets.
Et après, voilà, on a des nouveaux projets. Il y a la cueillette libre. Il y a eu des petits galops d'essai cette année en cueillette de framboise.
Oui, j'en ai entendu parler.
Voilà, de framboise, ils ont fait un petit peu de fraises, mais c'était surtout framboise.
En fait, l'idée, c'était de se dire, on fait du petit fruit, parce que le petit fruit, ça a une marge plus importante.
Ouais.
Qu'on sait que sur le territoire, en fait, ça manque de producteurs de fruits.
En petit fruit bio, il n'y en a pratiquement pas.
Et la cueillette libre, ça permet d'avoir un nouveau revenu sans trop de charges de personnel pour pouvoir réussir à compenser notre trou de trésorerie.
Voilà.
Notamment.
Et donc, on est qu'au début des plantations de petits fruits. Il y a la fraise, il va y avoir des mûres, il va y avoir plein d'autres choses qui vont venir. On a commencé à planter des pommiers en relation avec le conservatoire des variétés de pommes de Montpré-Chambord. Parce qu'on s'est dit, autant faire de la pomme locale, on va pas faire des golden.
Et puis, Bruno, c'est un spécialiste quand même. T'es pépiniériste, mais t'es quand même... Il connaît toutes les plantes de la terre. non, mais il est super balèze. Il va dans d'autres pays pour aller sélectionner des espèces qui s'adaptent au changement climatique, que jamais personne n'a.
C'est ma spécialité, les petits fruits rares. Donc, il y a des projets sur de l'agrume rustique, il y a des projets sur de la mangue du Canada.
D'accord, ouais, fais-nous rêver là. Voilà. Donne-nous des trucs.
Donc, c'est de plantation. Il y a des projets sur des fruits de la passion, puisqu'on a une serre, la serre à plants. On produit du plant maraîcher aussi. Qui est hors gel, donc on peut faire du fruit de la passion. Il y a une variété qui s'adapte à la région. Donc voilà, c'est des diversifications qui vont être faites là au cours des mois, au cours des années.
Donc ça, c'est une chose. La boutique sur place maintenant, avec de la vente directe toute la semaine, pour que des gens qui sont pas, qui trouvent pas leur compte dans un panier puissent acheter sur place.
Voilà, ils peuvent choisir au 145 rue de Bas-Rivière,
qui est le tiers-lieu qui a été acheté. Voilà. Et dans ce tiers-lieu aussi, il y a Arnaud Moyen qu'on va recevoir dans un prochain épisode. T'es d'accord, Gaël?
Ah oui, je suis d'accord.
On fait ça. Mmh. Qui fait notamment des ateliers cuisine avec des prestations aussi sociales pour apprendre à cuisiner ou pour
bien-être alimentaire.
Ou qu'on met à disposition d'autres associations. Et donc, ça permet aussi de faire de l'interconnaissance et de l'interaction avec d'autres associations et, ou d'autres entreprises en lien avec l'alimentation ou avec le social. J'en oublie dans les projets. Alors, il y a aussi comment on améliore la qualité de vie au travail, parce que du coup, ça crée de la tension dans les équipes et tout ça, et donc il faut qu'on continue de travailler aussi sur cette dimension sociale. Et puis ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on les jardins de cocaïne maintenant font les marchés en extérieur, en vente directe, ce qu'ils ne faisaient pas avant.
À Blois
le samedi matin notamment,
oui, Louis XII,
le vendredi aussi,
vers la place Balin de la Vessière.
Voilà, il y a le vendredi, oui,
le et vendredi
puis,
soir.
Et puis il doit y avoir Blois Nord, un marché où on participe aussi de temps en temps, il me semble. Voilà.
Mais ça aussi, ça a été tout un travail de... parce qu'en fait ça change complètement les rythmes de travail, parce que tu fais travailler les week-ends, et puis il y a aussi la relation avec les autres maraîchers qui du coup peuvent te voir comme un concurrent, parce que comme c'est de l'insertion par l'emploi, en plus tu as des aides publiques pour tes salariés qui font l'encadrement. Mais en même temps, ça se justifie tout à fait, parce que quelqu'un qui a jamais travaillé, en réalité il a pas du tout un rendement de travail de quelqu'un qui est à son compte, etc. Et en fait, t'es pas du tout dans la même démarche. L'idée, c'est de l'accompagner vers un retour à l'emploi, et donc t'es pas sur des gens qui sont ultra efficaces, t'es plutôt sur des gens qui demandent aussi de l'accompagnement social, de l'accompagnement personnel dans la démarche pour les aider.
Il y a l'accompagnement social, donc avec des encadrants, les CIP. Il y a l'encadrement maraîcher, donc il y a un encadrant pour 5 ou 6 personnes. Et depuis quelques années, on a quand même un public qui vient au jardin de cocagne qui est de plus en plus éloigné de l'emploi. Et c'est vrai que l'emploi, en ce moment, il y a moins de chômage qu'il y a quelques années. Donc évidemment, les gens qui viennent au jardin de cocagne sont de plus en plus éloignés de l'emploi. Donc c'est de plus en plus difficile de les remettre dans le travail.
Bruno, reprends-moi sur les chiffres. Moi, j'ai en tête qu'en gros, quand on arrivait que la faillite des paniers vendus sur Paris s'est arrêtée, ça faisait un trou dans la caisse de 300 000 par an structurels manquants, oui. Et qu'aujourd'hui on n'est plus qu'à 30 000 manquants structurels, et qu'en fait je pense que d'ici l'an prochain on devrait réussir à l'équilibrer,
à équilibrer les comptes. Ouais.
Ouais, alors Nico était pas sûr des chiffres qu'il avait donnés, alors il a consulté quelqu'un et je vous donne les bons chiffres. En 2022, il manquait 59 000 euros, en 2023, 25 000 euros et en 2024, 18 000 euros. Voilà, ça c'est les bons chiffres. Et c'est reparti!
Mais il y a eu un moment où chaque mois, on savait pas si on allait pouvoir payer les gens et si on allait pas devoir mettre la clé sur la
porte. Ah oui, il y a eu des mois très tendus.
J'imagine que, comme tu disais, pour les équipes, c'était une tension.
C'était une tension.
Ouais. Et puis, ils avaient l'impression de ne pas comprendre, de tout commencer à... En fait, ce qui est vachement bien maintenant aussi, c'est qu'assez vite, il y a eu ces projets qui se sont dégagés entre nous sur comment on recrée un système différent. Mais il n'y avait pas encore l'adhésion des équipes. Et là, depuis quelques mois, il y a vraiment eu un travail où toutes les équipes ont participé à dire quelles sont les pistes de projet pour l'avenir. Finalement,
Ils ont bâti un plan de relance. Voilà, tout le monde a participé au plan de relance.
Qui finalement retrouvait assez bien celui du CA, Mais ils ont hiérarchisé, chacun a voté pour hiérarchiser les priorisations de ce qu'on allait faire. Et puis maintenant, CA et membres salariés font des groupes de travail pour pouvoir travailler
sur chaque thème.
Sur chaque thème. Et ça, c'est super. Par exemple, il y a aussi un thème sur comment on peut s'appuyer aussi sur des forces bénévoles pour nous aider. Et j'en profite comme on est un épisode de radio pour dire n'hésitez pas à nous faire un petit mail ou à nous contacter
pour venir participer
pour si ça vous intéresse de d'aider cette
et
association.
Sous quelle forme alors on peut aider?
Mais en fait à la boutique parce que
on vend de la vente au marché en tenant un peu la boutique.
Faut pas oublier qu'on est avec des gens en réinsertion et que y a beaucoup d'absences, énormément, il y a un taux d'absentéisme qui est assez élevé. Et donc il y a des samedis matins où des fois les un ou deux salariés qui devaient venir ne viennent pas. Donc l'encadrant se retrouve tout seul. Donc c'est vrai que s'il y avait des bénévoles qu'on pouvait appeler au pied levé comme ça pour leur dire viens donner un coup de main parce que là je me retrouve tout seul au marché, je suis en galère, et ben effectivement ça rendrait service.
D'accord.
Voilà, mais il y a aussi on fait aussi de l'échange avec les autres jardins des réseaux Cocagne sur la formation justement, comment on accompagne mieux les salariés pour réduire le taux d'absentéisme, pour qu'ils trouvent du sens au travail, des choses comme ça,
comment être plus efficace
pour améliorer le plan de culture.
On lance la production d'endives qu'on ne faisait pas avant, là, à partir du mois de janvier. On s'appuie sur l'expérience d'un autre jardin de Cocagne, celui de Limoges et puis un dans le Nord, pour bien réussir notre culture du premier coup.
Ouais, voilà.
C'est un vrai réseau.
Il y a aussi toute la gestion de personnel. Au tout début, les changements de plan de culture, c'était difficile à accepter. Il y avait un côté de en fait, tu as des habitudes, jusque-là, ça a toujours roulé. Alors pourquoi on remettrait les choses en cause? Et puis finalement, ce changement de culture, là, se fait, mais il a fallu 2 ans
pour
qu'il y ait cette acceptabilité de on va faire un plan de culture différent parce que finalement, on ne vise plus les mêmes publics, on a besoin de se diversifier. Une des erreurs, justement, c'était. Toute la rentabilité économique de Cocagne dépendait d'un seul acheteur, la vente des paniers sur Paris. Et quand il est tombé, ça a failli faire faillite. Et donc l'idée aussi des salariés et du CA, c'est de se dire on ne va pas refaire la même erreur. Maintenant, on va essayer de développer plusieurs pistes d'amélioration
pour ne pas
dépendre que d'un gros client. Tu voulais rebondir?
Oui, je voulais rebondir sur la notion de rentabilité qui n'était pas... Quand on faisait le plan de culture, c'est vrai c'était des habitudes. On faisait des légumes des fois qui étaient vendus à perte. Et maintenant, on a vraiment rentré une notion de rentabilité dans les mises en culture.
D'accord.
Et là, on a un coaching par un membre du réseau Cocagne aussi, d'un jardin sud-parisien, qui fait du coaching auprès des encadrants maraîchers pour toutes ces choses-là.
Mais ça a été dur aussi, parce que d'un coup, le CA commence à parler de rentabilité, etc.
Oui.
Et que les CIP qui font l'insertion professionnelle, ils disent « Mais nous, on n'est pas là pour la rentabilité, on est là pour faire de l'accompagnement social. » Donc, il fallait avoir un discours pour dire « Oui, mais si on veut continuer cette insertion sociale, il faut quand même qu'on soit à l'équilibre économique, sinon c'est toute la structure qui ferme. » Et donc, il faut toujours ce juste équilibre entre là, on a besoin de redevenir rentable. Dès qu'on sera de nouveau rentable, il faudra aussi qu'on retravaille sur un accompagnement social. Même on va le faire parallèlement, qui reste de qualité pour pas que les gens perdent leur sens au travail.
Oui.
Parce qu'il y a cette crainte-là, par exemple.
C'est l'objet, ça reste l'objet de l'association.
Oui,
exactement.
Et moi, j'avais une question par rapport au réseau de Cocagne, des jardins de Cocagne, pardon. Ils ont pu vous accompagner pendant... vous en parlez beaucoup, justement, le fait que, comme c'est un réseau, vous vous inspirez des autres.
En fait, quand on a besoin d'un référent dans le réseau Cocagne, il y a des référents. Là, il y a un référent tiers-lieu qui est venu la semaine dernière, où il y a une quinzaine de jours, visiter notre tiers-lieu, nous donner des conseils. C'est le jardin de Cocagne de Beaune-la-Rolande, là, la voie romaine, je crois, il s'appelle celui-là. Et il y a un référent, tiers-lieu. Donc c'est Timothée Huck qui est venu nous donner des conseils sur la gestion de notre tiers-lieu. Donc après, on adhère ou on n'adhère pas, mais lui, il a une vraie expérience là-dedans. Donc,
ça vous permet de faire justement.
Mais oui, il y a toujours des expériences,
Très bien, messieurs. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus. Est-ce que vous vouliez dire un dernier mot?
C'est une super... C'est vraiment... Moi, j'ai découvert une asso qui est quand même...
Non, mais il y a une bonne équipe.
Et voilà. Et c'est vrai que ça a été une chance que le département, l'aglo, la mairie suivent au moment où tout ça a failli fermer.
Oui.
Et que aussi, le CA et les salariés se retroussent les manches. Quoi.
Oui,
ça a vraiment sauvé quelque chose d'important dans la ville de Blaise-Oise. Hein.
Oui, sans doute. Bah oui, parce que c'est la plus grosse structure d'insertion du département quand même.
Ouais. Donc je suis content d'avoir fait enfin ce podcast parce que finalement ça fait 2 ans qu'on s'implique là-dedans et que jamais j'avais pu témoigner de ça, alors que vraiment je suis vraiment content qu'on en arrive là aujourd'hui à se dire que ce truc-là va vivre sa vie, quoi.
Il y a 2 ans on n'aurait peut-être pas dit la même chose, mais là c'est un peu plus apaisé.
Très bien, et on va finir sur cette belle note.
Merci beaucoup, messieurs.
Merci.
Au revoir, salut.
Au revoir. Salut.
Tu veux me dire, Nico ?
On s'était fait une promesse, mon Gaël.
Qu'est-ce qu'on avait dit ?
On avait dit...
Pas d'acronyme.
Oui, c'était pas celle-là que je pensais. On avait dit qu'on tenait tout le mandat pour faire de la transparence de la vie politique. C'était une des petites promesses qu'on s'était faites. On va raconter tout au fur et à mesure. Alors, on n'arrive pas toujours à tout raconter parce qu'il se passe plein de trucs.
Ouais.
Et des fois, on prend du retard, mais en tout cas...
Des fois, je te sens même un petit peu... Ah, oh, j'ai envie de raconter ça, j'ai envie de raconter ça, j'ai envie de raconter ça.
Ouais, j'ai envie de raconter plein de trucs. Puis mais en même temps, c'est un rendez-vous de plus à caler, etc. Et ça se... Mais, la fin, quand même, on tient, on est encore là. Ouais. Et ça, c'est chouette.
Ouais, mais Nico, je te lâche pas. Il nous reste un an et demi ?
Ah ouais, à peu près.
À peu près. Et on va au bout de ton mandat.
Au bout.
Et
ça, c'est grâce à vous aussi. Vous faites plein de super retours. C'est trop sympa.
Oui,
n'hésitez
absolument.
Pas à faire connaître Journal de bord d'un élu local. Merci à Zef de nous diffuser. Merci à Blois Capital de nous diffuser. Merci à Clément Horry de nous prêter sa musique. Et merci à tous nos invités. Vous êtes tous super.
On vous fait des gros bisous.
Bisous, salut.
Ciao.